ouvert beaucoup de portes parce que parler même en public n'était pas aisé pour moi. Je sens tous les yeux du monde sur moi. Mais avec le théâtre, ça déliait ma langue en fait. Donc je peux m'exprimer sur n'importe quel plateau.
Le chef du quartier de Buxemtanga où se déroule le festival des récréatrales, tout passe par lui. Et pour cette 11e édition, nous sommes allés le saluer et découvrir que le chef fut comédien dans sa jeunesse, il y a quelques années. Vous l'entendrez tout à l'heure, mais place aux artistes, aux auteurs, aux comédiens et aux créations. Bonjour Sinzo Anza.
Bonjour.
Vous êtes auteur congolais né à Goma et fidèle de ce festival car vos textes y sont créés. Est-ce qu'ils sont aussi joués à Kinshasa ?
Alors, pas ceux qui ont été présentés au récréatral, mais oui, j'ai trois textes précédents qui ont été joués à Kinshasa.
Et c'est donc Aristide Tarnagda, le directeur du festival des récréatrales, qui met en scène ce spectacle, le précédent aussi. Ça ne veut pas dire que vos textes étant un peu politiques, il y aurait un petit problème à Kinshasa ?
Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'il soit politique au point de déranger qui que ce soit dans ses fonctions ou dans son regard sur l'actualité, étant plutôt politique au sens de l'organisation de la vie en général ou de la conception de cette organisation en fait.
En tout cas, à chaque fois dans vos textes, on entend la ville, la parole des Quinois. Est-ce que votre théâtre, Sinzo Anza, naît de la rue ?
Non. Pas du tout. Je pense pas du tout que mon travail naisse de la rue. Il peut être marqué par la rue. Il est parfois écrit dans la rue. Une bonne partie de Que ta volonté soit quine a été
le précédent texte, donc
tout à fait, a été donc écrite dans la rue. Mais au fond, moi, je suis un auteur, donc je pense que comme la plupart d'auteurs, c'est avant tout un travail d'isolement.
Alors, Que ta volonté soit quine, donc qui est la précédente mise en scène, le précédent texte sera présenté à Paris en décembre. Si d'ici là, les théâtres ne sont pas fermés. Et puis cette année, Awaga, c'est un texte assez décapant et provocateur que l'on peut voir, intitulé Plaidoirie pour vendre le Congo. Alors, est-ce que c'est une provocation, une plaisanterie ou un projet ?
Je pense que c'est un résumé, une sorte de mise au point, comme ça, de la situation. Donc il fallait, dans ce texte, en fait, la question de départ, c'est de savoir quel sens on donne aujourd'hui dans cet espace donc qu'on appelle le Congo à la sacralité de la vie, donc qui est à la base du contrat social, qui est la base des raisons pour lesquelles les gens s'organisent en société ou en tant qu'État, etc.
Ouais. Alors quand je dis provocation ou que je pense à provocation, c'est que le Congo a été propriété personnelle du roi des Belges Léopold II il y a à peine un peu plus de 100 ans. Donc le vendre aujourd'hui à nouveau peut sembler quand même un peu hérétique.
Alors je pense que, alors de mon point de vue d'auteur, ayant rassemblé tous ces personnages-là pour traiter de ce sujet, je pense qu'effectivement un pays peut se vendre. Sinon je n'aurais pas écrit tout ça. Je pense que il suffit encore une fois d'un consensus là-dessus. Il faut que les personnes qui sont légitimes pour ça le fassent. Et dans le cas du Congo, je pense qu'effectivement il a une histoire problématique, une actualité problématique, des perspectives d'avenir assez problématiques. Donc ouais, si on fait le point et qu'on se dise voilà, on le vend et on s'inscrit dans une nouvelle histoire, pourquoi pas. Mais la vente du pays m'est apparue avant tout comme une affirmation qu'il appartient justement aux personnes qui le vendraient, sachant que c'est un espace quand même dans lequel économiquement et politiquement la plupart du temps les choses échappent complètement aux citoyens en fait.
Alors, nous allons parler de ce spectacle plus en détail, mais vous êtes venu aujourd'hui avec Nadiaji Kagara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne et vous jouez le cœur dans ce spectacle et une femme qui réclame des indemnités. Est-ce que vous pensez que vendre le Congo serait une bonne idée ?
Très bonne question. Est-ce que ça serait une bonne idée? Je pense pas, parce que ça aboutirait à quoi, en fait, de vendre ce pays? Parce que finalement, comme on dit dans le texte, il restera toujours ces inégalités, cette déshumanisation, en fait, qui est ambiante, là, et qui pollue tous nos rapports sociaux, et qui nous déshumanise, déjà, en tant qu'individu, et également, qui déshumanise nos rapports aux autres, notre rapport à la spiritualité. Moi, j'ai envie de parler de ça, parce que je trouve que dans le texte, il est beaucoup question de ça, en fait. On manque un peu de retour à soi, d'ancrage. Et en fait, le fait de vendre ce pays n'est pas une solution, parce qu'il manquera toujours cet ancrage et cette conscientisation qu'on peut avoir de notre société, de ses inégalités, de comment les résoudre, comment les essayer d'effacer, on va dire, tous ces sillons qui peuvent exister entre nous, en tant qu'être humain, en tant que peuple. Voilà, déshumanisé par une politique et autres.
En deux mots, c'est l'histoire d'un conseil de quartier où la population réclame des indemnités promises par l'État suite à une émeute, et chacun s'interroge pour savoir quel est le prix d'une vie. Donc, nous allons peser la vie de chacun, d'un homme de peu ou d'un homme de beaucoup, estimer le prix d'une vie et d'un pays. C'est le sujet de la pièce, ce sera aussi le sujet de l'émission. Mais premièrement, musique avec Martial Panucci, qui se produira demain, jeudi, sur la scène musicale d'Eric Ratral, dans la rue 93 de Buxemtanga.
Mon pays va mal, mon gongo va tomber. Mon pays va mal, mon gongo va flamber. Mon pays va mal, mon gongo va tomber. Mon pays va mal, mon gongo va flamber. Ah, hey, et mamboué, ma, 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 hey, et mamboué, ma, hey, et mamboué, ma, 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 hey, et mamboué, ma.
Toujours les mêmes voleurs, mêmes pilleurs. Toujours les mêmes violeurs, même qu'hier. Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nuits fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous embobinent et nous entuent à la fin, finissent par retourner leur veste. Munga, l'Algérie, Bouélé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tati, Mabiala, Mary, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui la fume et nous en fume quand c'est pas les foufous qui nous agacent à longueur de journée à coups de tout gouvernemental et de mensonges grossières. Et de mensonges grossières. Holo, Bomeni, Omemi, 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 Gabo, Babili, Balandi, Omango, Loco, la Moïdi, alors c'est eux les grands voleurs. Panama Papers, Paradise Papers, partout, partout, c'est les mêmes gueules. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort, ça, c'est quand même triste. Pendant que Claudia achète un appart à New York pour sa fille à coups de millions de dollars avec la complicité et l'aide de déni, et l'aide de déni, mais ça, c'est quel déni? Non, c'est quand même triste. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants, la même galère. Brazzaville, Dolizy, Panton, Impondo, les Congolais ont la même colère. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants, la même galère. Brazzaville, Dolizy, Panton, Impondo, les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même galère. Les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même colère.
Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, et mamboué, ma, 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 hey, et mamboué, ma, hey, et mamboué, ma, 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 hey, et mamboué, ma.
Un étranger pour le plus grand hôpital, c'est bien la preuve du Congo qui coule. Même avec un blanc à sa tête, le CHU restera toujours le CH qui tue. Baïbi à pétrole, Baïbi à Zété, Babobina, Poto, Bas paradis fiscaux. Mais quand les retraités ne sont pas payés, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour supporter. Il faut supporter.
Kalali Kamboya Congo, Awana Zébet Mele,
il va supporter.
Tantambi walu solonge salando
to na supporte
dalali kambo ya Congo awana sebet mele
va supporte. À la fin de chaque pluie, Brazzaville et Panton s'inonde. Mettez les foufous nous racontent que des fake news. Gambo mambo senjo c'est chaud, Ngaï Mosaka ça chauffe. Mettez les foufous racontent du pipo. Il paraît que Denis a rencontré Trump, mais Washington dit qu'ils n'ont vu personne. Bombardement dans le pool, massacre à Chacona, prisonnier politique, massacre pillage, fabrication de procès politique. Et pour mentir on envoie le diable
coup national.
Le Congo va mal, Martial Panucci sur RFI avec une chanson de circonstance, puisque de Ouagadougou, nous sommes pour la 11e édition des Récréatrales. Nous auscultons aujourd'hui, d'une certaine façon, le Congo avec Sinzo Hanza et sa nouvelle pièce Plaidoirie pour vendre le Congo dans une mise en scène d'Aristide Tarnagda. Donc, l'histoire d'un conseil de quartier, disais-je, qui suite à une fusillade, qui est appelée une bavure d'ailleurs. C'est comme ça qu'on dit quand l'armée tire dans la foule, Sinzo Hanza ?
Pas forcément quand l'armée tire dans la foule, mais plutôt quand des morts sont présentés à l'issue d'une opération dont on estime que, je pense, il n'y aurait pas dû y avoir des morts, ou alors que c'est des morts supplémentaires, enfin qui ne devraient pas faire partie des morts qu'on attendait, par exemple si ça avait été des rebelles et que finalement il y a des civils dedans, etc., ou des bandits et que finalement il y a des innocents à côté. Et dans ce cas précis, c'est quelque chose qui est inspiré quand même de beaucoup d'événements historiques et de beaucoup d'événements beaucoup plus récents, notamment dans les répressions qu'on a connues dans ce pays-là à partir de 2016 jusque 2018 pour réclamer le départ du régime précédent, ou encore contre les différentes actualités malheureuses de massacres à l'est du pays, ou les questions économiques même, donc de pillage des ressources dans les mines du Katanga, etc.
Et dans ces cas-là, on ne sait jamais trop combien de morts il y a. Hein. D'ailleurs, dans la pièce, il est dit que bon, les chiffres officiels, s'ils étaient vrais, ça serait quelque chose
exactement.
Comme ça.
Exactement, oui.
Il y a les chiffres, mais il y a aussi les hommes, les uns après les autres.
Je suis venu ici pour ce qu'il reste de mon fils. Votre pitié et votre argent ne m'intéressent pas. Je veux simplement vous entendre parler de lui, de ce qu'il s'est passé.
Nyanyadji Kagara, c'est vous que l'on entend dans ce très court extrait plaidoirie pour vendre le Congo. Il y a donc la douleur des familles, mais aussi finalement l'absurdité de devoir estimer financièrement un mort. Comment vous pensez votre personnage de femme qui réclame ?
C'est une mère qui, au-delà de ça, n'a pas du tout de nouvelles de cet enfant. Donc elle est désespérée durant toute la pièce, elle cherche désespérément cet enfant qu'elle a perdu et dont elle veut avoir des nouvelles en fait. C'est tout ce qu'elle demande en fait, qui est une sorte de personnage qui apporte aussi de l'humain dans cette déshumanisation du peuple, on va dire aussi.
Et il y a cette femme, mais il y a aussi le peuple qui est présenté dans un dispositif assez astucieux, parce que finalement le spectateur voit le conseil de quartier qui est devant nous, et puis il y a un mur avec une fenêtre, et on entend et on voit le peuple derrière la fenêtre réclamer son dû, faire ses commentaires, et parfois ce peuple est un peu cupide, il est prêt à inventer même des cadavres ou aller en chercher dans d'autres morgues, d'autres quartiers pour gagner un tout petit peu plus d'argent.
Ouais. Je trouve qu'on voit très clairement en fait de quelle manière en fait l'être humain peut arriver à un stade de misérabilité, on va dire, de désespoir, qui l'amène à devoir en fait dire je veux savoir combien coûte mon enfant ou mon fils ou mon père, mon frère que vous avez tué. En fait, c'est plutôt ça qui m'intéresse plus que la peine que j'ai de l'avoir perdu. Enfin, le peuple est de cet ordre-là, de cette pensée, et je pense que ça montre assez clairement ce qui se passe aussi dans notre société, sur le continent africain ou même ailleurs, j'ai envie de dire, de certaines politiques qui font que on perd de notre humanité parce qu'on est désespéré.
Mais dans cette pièce, il n'y a aucun manichéisme, c'est-à-dire que le peuple, le conseil de quartier et l'État, chacun font preuve d'une sorte de cynisme à tour de rôle, ou tous ensemble parfois.
Oui, parce que j'estime quand même que dans un contexte comme ça, chacun se définit le bien d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour l'État, il y a quelque chose qui est bien dans ce qu'il fait.
Donc l'État propose $30 par cadavre.
Et pour lui, c'est bien. Voilà. Les personnes qui veulent
cadeau, voilà.
Ouais, un petit cadeau, ouais.
Un petit geste.
Marque d'attention. Et en fait, pour les personnes qui réclament cet argent, il y a une forme de bien également. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on concilie tous ces regards-là ? Comment est-ce que on interroge finalement le sens de la vie, le sens de la société, c'est-à-dire de la composition de nos vies dans un cadre précis, à partir de la manière dont nous nous définissons le bien les uns les autres, en fait.
Et la question est-ce qu'une vie vaut une autre vie ? Et dans la pièce, chacun joue à cela avec des allures un peu de marchand de tapis, quand même, parfois.
J'ai une idée. Mm-hmm. On fixe le prix en fonction des avoirs de chacun. Une personne qui a été capable d'accumuler un patrimoine équivalent à $2000 américains, par exemple. On peut bien établir qu'elle vaut $4000 à sa mort.
Mais voilà,
Ça, c'est un bon point de départ.
Ah non, 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 non. Mais est-ce que le cadavre n'avait que 500 francs congolais dans sa poche au moment de sa mort?
Voilà.
Et vous direz qu'il ne valait plus que 1000 francs congolais, c'est-à-dire moins d'un dollar américain?
Moi, je pense que mon oncle, lui, n'avait rien quand il est mort.
Bah, les gens qui font les statistiques disent que nous vivons dans ce quartier avec moins d'un dollar américain par jour.
Hein. C'est une façon de déclarer que nous ne vivons même pas.
Sommes-nous vivants? Cinzo Hanza.
Je pense que nos sociétés ont été confrontées depuis plusieurs années maintenant à des logiques de mort, il faut le reconnaître, des logiques d'exploitation, de négation de la vie telle qu'elle doit continuer à s'épanouir, à se déployer le plus librement possible, pour plusieurs raisons en fait, pour des raisons économiques, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons, je sais pas, de gloire, etc. Mais il faut reconnaître quand même que la vie est sortie de tout ce qui conduit nos sociétés aujourd'hui. Oui.
Alors, parlant de cette pièce, le ton est un peu grave, la question est philosophique, mais vous en faites une comédie. Parce qu'on rit beaucoup, c'est quand même la force de cette pièce, Plaidoirie pour vendre le Congo. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Nani, d'avoir joué une comédie?
C'est comme dans la vie, des fois des choses graves qui arrivent, en fait, on rit au lieu de pleurer. Et oui, le sentiment d'avoir joué une comédie dramatique quand même, parce que ce qui est dit est quand même très profond et très politique, très important. Mais on le dit avec humour.
L'absurdité, l'humour, c'était ce que vous cherchiez, Cinzo Hanza?
En fait, moi, je cherchais à faire le point forcément sur un sujet aussi grave, aussi... Et aussi fondamental, supposer de ne pas avoir que ma parole là-dedans. Parce qu'on m'a posé beaucoup cette question de savoir si j'avais un point de vue particulier dans tout ça. Et en fait, je n'en ai pas. Et
donc vous n'êtes pas l'artiste, parce qu'il y a un artiste sur scène qui arrive, c'est une sorte de chanteur de variété, ou enfin un chanteur, star mondial, qui connaît le monde. Vous n'êtes pas lui.
Je ne suis pas lui, bien que je lui ai prêté, c'est vrai, beaucoup de choses de moi. Parce que ce qu'il raconte, par exemple, sur Wall Street et la bourse de New York, c'est effectivement le sentiment que j'ai eu en allant là-bas, en allant visiter ce lieu comme le temple de la spéculation, qui est souvent quand même à la base d'une grande part de nos malheurs, quand même, dans le reste du monde, en fait.
Lui passe en tout cas sa vie à compter ses likes sur Facebook. Ça devient un suspense dans la pièce, puisqu'ils augmentent de minute en minute. Et c'est lui qui va proposer, en poussant l'individualisme jusqu'à son extrémité, de vendre le Congo.
Je propose à la place que nous vendions le pays. Ben, un peuple obligé de négocier sa valeur monétaire avec son gouvernement n'a aucune raison de prétendre à la citoyenneté. Ce pays est un business depuis sa création. C'est sa nature profonde. Alors, on va arrêter de faire semblant d'être un peuple, là, hein, et demander notre part du business.
Parlons chiffres, Cinzo Hanza. Le Congo, vous voudrez combien? Quelques milliards de dollars, centaines de milliards de dollars.
Alors, selon les experts, encore... C'est une phrase qui revient souvent dans la pièce. En fait... Il y a un chiffre donné dans la pièce, donc de 20 000 milliards de dollars, serait une estimation de la valeur du sous-sol congolais. Et donc, ça n'est pas encore la valeur du pays en soi. Mais évidemment, le pays en soi, quand même, c'est forcément inestimable. C'est pour ça que c'est forcément une blague de se dire qu'on va vendre un pays avec tout ce qu'il contient d'inestimable, en fait.
Mais ces 20 000 milliards de dollars divisés par le nombre de Congolais, ça ferait quand même toujours plus que 30 dollars par personne.
220 000 ou quelque chose.
220 000 dollars par Congolais, ce qui est quand même beaucoup, donc plus que 30.
Plus les grossesses.
Plus les grossesses.
Ah, oui.
Et plus que 30, qui est donc le prix d'une chèvre, puisque j'ai appris que c'était à peu près le prix d'une chèvre, 30 dollars ou un peu plus. Alors la force de la pièce, c'est cet humour, c'est aussi la virtuosité de sa langue et de votre écriture, Cinzo Hanza. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a depuis Sonny Laboutanci un lien, une sorte de filiation entre tous ces auteurs congolais, de Sonny à Cinzo, en passant par Dido, Dieudonné Nyanguna, que j'ai rencontré ce matin.
C'est des auteurs jeunes comme ça, francophones, qui ont une relation très liée avec le théâtre, donc avec beaucoup des pigments du fleuve et de la forêt. Avec beaucoup de congolités, où on sent très bien qu'il y a quelque chose qui est lié à l'amour de la musique et à l'amour de la langue. C'est des auteurs qui sont très très marqués par la langue. On reconnaît leur écriture par le côté gourmet qu'ils ont. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est très très congolais au niveau du théâtre. Il y a quelque chose d'assez gourmet avec la langue. Cette langue française là, telle qu'appliquée dans la Congolie. Et puis, t'as l'amour de la dérision sur le plateau de théâtre. Donc, ça se chevauche comme ça. Baf! Ça s'affronte comme ça. ça se compose comme ça, ça crée des espèces de tectoniques de langue, quoi.
Senzo Anza, en gourmet de la langue, ça vous va?
Je pense sur cette pièce-là, oui, on peut le dire.
Est-ce que vous êtes d'accord?
Ah bah oui, tout à fait.
C'est un gourmet gourmand ou un gourmand gourmet?
Ah bah, c'est un très 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 grand grand gourmand de la langue, parce que je trouve que ce qui a été fait là sur Plaidoirie pour vendre le Congo est exceptionnel, parce qu'on a tout un mélange d'écriture. On passe à la fois d'une écriture très écrite poétique à une écriture très parlée avec le peuple, quelque chose de du peuple, voilà, quelque chose de l'ordre de l'action de la langue. Et il y a quelque chose de, aussi une langue qui est très politique. Donc on a tout un brassement comme ça de la langue. Donc je trouve qu'elle est magnifiée, cette langue, dans Plaidoirie pour vendre le Congo, avec toutes ces écritures différentes qui se manient très bien.
Et alors Dido parlait de congolité. Est-ce que vous, qui êtes d'origine tchadienne, vous l'entendez, cette congolité, ou ces congolités?
Ah oui, avec les co.
Avec les quoi?
Non, mais il y a des petites expressions congolaises. Moi, je sais pas bien le faire, mais avec l'écho. En fait, c'est des phrases qui se terminent par co. Moi, j'en ai pas, d'ailleurs, dans la pièce à dire, avec l'écho.
Mais vous travaillez ça, vous travaillez cette congolité où elle est comme ça, naturelle, parce que c'est votre oreille, c'est votre langue, c'est votre écriture.
La langue, c'est l'outil central déjà de l'écriture. Donc forcément, lorsqu'on aborde un texte ou en tout cas un sujet important, on se pose des questions de comment est-ce que on travaille avec la langue de manière à ce que ce sujet soit exprimé le mieux possible, en fait. Donc ouais, la langue est centrale, le travail sur la langue dans des projets comme ça est très important. Et d'un autre côté, évidemment, à partir du moment que c'est une pièce dans laquelle la parole est donnée à tout le monde, donc il fallait effectivement y mettre des expressions venant de partout, les travailler, c'est vrai, mais il faut quand même garder l'authenticité des lieux de provenance.
Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de tous les personnages, mais il y a le cœur, il y a le peuple, mais il y a aussi
Gédéon le boucher.
Gédéon le boucher, le vieil obsédé sexuel, la pharmacienne. Enfin, il y a toute une série comme ça, le pasteur, toute une série de personnages qui ont chacun un registre de langue particulier. Vous l'écrivez comment, la parole théâtrale? Est-ce que vous la verbalisez? Est-ce qu'il y a un musicien chez vous qui s'éveille pour dire le texte au fur et à mesure que vous l'écrivez?
C'est vrai que moi, je me lis parfois à haute voix pour des raisons de rythme, parce que j'ai tendance à écrire des phrases longues, en fait, et je m'assure d'être dans un rythme tenable. C'est une écriture qui vient de l'oralité, oui. Parfois, je mets la radio et j'entends les discours. C'est important, malgré tout, de garder le rythme et la tonalité, le timbre que j'entends au pays, quoi.
Du rôle de la parole à l'école du théâtre, on le disait tout à l'heure, nous avons rencontré le chef du quartier dans sa cour. Il nous attendait avec son chapeau et sa canne sculptée. On lui a apporté quelques fruits pour le remercier de nous recevoir, et on a causé théâtre et de la fierté des habitants du quartier d'ouvrir leur cour pour ces récréatrales.
Sans trop me tromper, je sais qu'ils sont fiers. Il y a plus de fierté que de contestation. Plus de fierté.
Quel est le rôle du chef dans l'organisation des récréatrales? Quel est votre rôle?
Je joue surtout le rôle de conseil. Je donne mon avis pour que tout se passe bien.
Sur quelle question?
Sur toute l'organisation humaine. Parce que là, c'est la base de tout. Parce qu'il faut avoir un bon contact avec le voisinage, leur expliquer ce que vous voulez faire, les faire adhérer. C'est pas la force, c'est un consensus.
Et c'est compliqué de les faire adhérer, parce qu'il y a chaque fois des nouvelles familles qui ouvrent leurs cours.
Oui, effectivement, il y en a qui partent, il y en a qui viennent. C'est difficile, mais au finish, ils finissent par tous l'accepter.
Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils acceptent?
Pour qu'ils acceptent, c'est bon. Vous savez, ici, là-bas, chez nous, en Afrique, c'est l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Quand vous vivez dans une société, parfois, il va falloir faire des concessions. Et dans toute chose, il faut penser au bon et au mauvais. Quand on vous explique comment ça se passe dans les récréatoires, leur objectif est autre. Vous trouvez plus de bien que de mal. Parce qu'on ne vous demande pas de ne pas respirer. Juste votre espace vital.
Chef, d'où vous vient ce plaisir du théâtre, ou ce bonheur du théâtre, ou cet amour du théâtre?
Je l'ai pratiqué, c'est ça aussi.
Ah bon?
Au début, je ne comprenais rien, mais pour nous, c'était des singeries, hein, parce que moi, je préférais plus faire du football, la lutte gréco-romaine, que le théâtre. Donc, du coup, ça m'a ouvert beaucoup de portes, parce que parler même en public n'était pas aisé pour moi. N'en parlons pas, manger en public, moi, je ne pouvais pas manger entre deux personnes, pas question. Je chante tous les yeux du monde sur moi. Ça m'empêche de manger. Mais avec le théâtre, ça délie ma langue en fait. Ça fait partir ma peur, ma timidité. Donc je peux m'exprimer sur n'importe quel plateau.
Donc ça a été important dans votre vie?
Très important, très important.
Et pendant les récréatrales, vous restez ici ou vous allez voir des spectacles aussi?
Ah, ça c'est un autre problème. Je vais voir les spectacles. Hier même, j'étais médiateur. J'ai quitté une cérémonie, je suis revenu. Je n'avais pas chômage, je suis sorti m'asseoir derrière. Entre une bagarre qui a éclaté devant moi. J'ai demandé aux policiers d'appeler du renfort. Ils m'ont dit non, qu'ils pourront gérer. J'étais un, il y avait un, après j'étais deux. J'ai dit, hey, ça ne va pas marcher. J'ai fini par appeler Aristide au secours. Il faut que tu viennes. Appelle le chef de la sécurité. Il n'a qu'à envoyer du renfort parce que son chef là-bas. Je ne savais pas qui battait qui, mais c'est des coups qu'on donnait. Ouais, donc déjà, je suis acteur en même temps et médiateur en même temps. Comme c'est mon quartier, on se connaît. Bon.
Et vous connaissez tout le monde, bien sûr.
Je connais tout le monde, en tout cas.
Est-ce que dans le quartier, depuis que vous êtes chef,
oui,
il y a eu un jeune homme ou une jeune fille qui a eu envie d'être comédien, de faire du théâtre? Est-ce que ça a réveillé des vocations?
J'ai deux de mes fils qui sont là, les enfants de mon grand frère, ce sont mes enfants. Ils sont dedans. En tout cas, je ne peux pas dire que c'est des impossibles, mais ce n'était pas facile avec eux. Mais avec le théâtre, c'est ça, j'ai dit, je me repose. Pour l'instant, j'ai laissé la tâche avec Aristide. Ils font du théâtre, donc du coup, je me repose, ce n'était pas facile. Et il fallait partir séparer des bagarres par là, jouer la médiation par là, parce qu'ils faisaient des dégâts. Mais avec ça, il y a une occupation, ils ont autre chose dans la tête, et non les bêtises. Donc ça sert beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup.
Et ils seront peut-être stars un jour.
Et oui. Et bon, je vais cracher le morceau, mais pas vraiment le morceau. Mais il y a un parmi les deux qui a eu la chance d'être sélectionné. Il a fait une audition, ça a marché. Et je pense que si tout va bien avec la grâce, vu le mal de nos ancêtres, il doit aller en France pour, je crois, 6 mois. Et dans le cadre du théâtre, vous voyez, ça porte des fruits. Ça porte des fruits.
Sinzo Anza, vous l'avez rencontré, le chef, en venant à Ouaga?
Pas du tout. Je pense que je vais essayer de le rencontrer maintenant que je l'ai entendu.
Parce qu'il pourrait être... Enfin, il est un personnage haut en couleur et un personnage de théâtre qui aime le théâtre. C'est quand même pas rien. Il accueille en tout cas dans ce cadre des récréatrales, dans sa cour, un spectacle qui s'appelle Le Quartier, avec des jeunes du quartier qui lisent des textes d'Aristide de Tarnagda. Est-ce que vous croyez l'un et l'autre à la force d'émancipation du théâtre?
Oui, parce que c'est un art qui réunit, c'est un art qui fait réfléchir, qui pousse en fait l'humain au-delà de ses possibilités, au-delà de ses limites, qui permet d'ouvrir les horizons, d'ouvrir ses pensées, de rencontrer. Donc je pense que oui, c'est un art qui permet cela, ouais, de s'émanciper.
C'est peut-être aussi un art qui donne de la valeur à toute vie, Shinzo Anza.
Oui, qui donne de la valeur à toute vie, parce qu'évidemment, il y a plusieurs voix qui sont d'une commune importance dans le théâtre. Personnellement, je suis engagé dans la création pour cette raison-là, parce que j'estime que la création artistique renouvelle, participe à renouveler la vie. C'est même en cet endroit-là que justement la vie se renouvelle constamment et continue de s'affirmer. Je pense que les artistes doivent reprendre leur utilité, qui est une utilité absolue, non négociable, parce que c'est à cet endroit-là que se trouve justement le renouvellement de la vie et son affirmation perpétuelle, en fait.
Valeur non négociable, je vous l'ai bien entendu. Merci Shinzo Anza, merci Nadiaji Kagara. Plaidoirie pour vendre le Congo, mise en scène par Aristide Tarnagda, se joue au Récréatral et le festival dure jusqu'au 31 octobre. Et on vous retrouve aussi dans l'actualité parisienne de la fin de l'année avec la première et la deuxième pièce, Que ta volonté soit king, et cette plaidoirie. De vive voix à Paris, à Ouaga, sur 94 FM et ailleurs dans le monde, Pascal Paradou, Nicolas Benita à la réalisation, coordination Yelko. On se retrouve demain, toujours au Récréatral et sur les réseaux sociaux. D'ici là.